Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, nos vies covidées. Après les records de ces derniers jours, plus de 200 000 contaminations, les chiffres vont continuer d'augmenter, dit le ministre de la Santé sur France Inter. Une série de nouvelles règles entre en vigueur aujourd'hui. Isolement, télétravail, boissons dans les transports, jauge pour les grands rassemblements. Comment se passe la mise en place à l'école en particulier? Ce sera une longue page de ce journal. Rappel des règles et reportages. Les hôpitaux de Marseille saturés. Nous serons avec le président de la commission médicale des hôpitaux de la ville. 500 médecins marseillais appellent solennellement à se faire vacciner. À 13h30, la vice-présidente et porte-parole du MEDEF est notre invitée. Protocole plus souple, télétravail obligatoire, mais aussi les salaires. Vos questions à Dominique Carlac au 01 45 24 7000. Dans ce journal encore, Jean-Luc Mélenchon pour l'inscription dans la Constitution de la liberté de genre. Un nouveau radar sur les routes contre la pollution sonore. Et les supporters du club de Vannes qui rêvent à l'exploit face au PSG ce soir en Coupe de France de football. Et en 2022, nous gardons nos bonnes habitudes, le feuilleton, comment lutter contre les déserts médicaux. Nous allons cette semaine dans le Maine-et-Loire. Et à 13h45, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Et bonne année.
Bonne année à vous.
Quel invité pour parler de quelle chanson aujourd'hui?
Ce sera le philosophe et romancier Charles Pépin qui nous parlera de rencontres amoureuses avec les mots bleus de Christophe, mais dans une version qui n'est pas celle de Christophe.
A tout à l'heure, le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Nouvelle année, nouvelles règles à l'école, au bureau, dans les transports, les restaurants. En 2022 encore, il faudra vivre avec le Covid et les annonces de ces derniers jours se mettent en place aujourd'hui. Facilement ou pas, nous allons détailler cela. École, collège et lycée d'abord. Les règles d'isolement pour les plus de 12 ans, élèves, enseignants et autres personnels. Cas positif. Schéma vaccinal complet, isolement de 5 à 7 jours en fonction des tests et symptômes. Schéma vaccinal incomplet, isolement plus long, 7 à 10 jours. Si vous êtes cas contact, pas d'isolement, mais des tests réguliers si vous êtes vacciné. 7 jours à l'écart si vous ne l'êtes pas. Moins de 12 ans, quel que soit le statut, 5 à 7 jours d'isolement pour les malades. Pas de mise à l'écart, mais des tests réguliers pour les cas contacts. On ne ferme pas la classe. Plus de souplesse, donc, pour éviter que les écoles se vident ou soient paralysées. Alors, rentrée Covidée ou pas, comment tout cela se met-il en musique? Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
Vous êtes allée dans l'une des villes où le virus circule le plus, Paris, et vous êtes allée devant une école du 18e arrondissement ce matin.
École élémentaire et maternelle Ferdinand Flocon. Élèves, parents et enseignants sont d'abord contents de se retrouver.
Bonjour, bonne année. Bonne année.
Mais certains parents, comme Aminata, qui arrive avec une poussette double et deux enfants qui lui tiennent la main, déchantent vite.
Que la maîtresse de mon fils a eu le Covid, donc elle n'est pas là. Et qu'on ne peut pas l'accueillir, donc je ne sais pas vraiment comment je vais faire.
Deux enseignantes absentes ce matin et non remplacées, Aminata repart avec ses quatre enfants, une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Damien.
Moi c'est compliqué parce que je ne peux pas télétravailler, ma compagne est enseignante, donc malheureusement si la classe de mon fils ferme, bah, ça veut dire que par voie de conséquence, la sienne aussi, parce que ça veut dire que c'est elle qui devra forcément le garder. Donc on espère doublement que ça ne va pas arriver parce que ça mettrait encore plus de parents dans une situation problématique.
Et pour beaucoup, c'est effectivement un énorme problème. Emmanuel ne veut surtout pas revivre la situation du printemps 2020.
J'espère juste que ça ne sera pas trop long et que ce qu'on sait que le télétravail plus les enfants à la maison, c'est ingérable. Donc l'horreur, surtout pas ça.
Et le risque pourtant est important. Le SNUIPPFSU, syndicat d'enseignants du primaire, estime que les règles à l'école sont insuffisantes pour éviter les contaminations et prévient qu'il faut s'attendre à des semaines très complexes.
Et rappelons que dans les lieux publics où le masque est exigé, il est dès l'âge de 6 ans désormais. Les enfants 5-11 ans peuvent se faire vacciner depuis le 22 décembre. Il n'y aura pas de barnum dans les écoles, précise le ministre Jean-Michel Blanquer, sauf si une action ciblée est jugée nécessaire ici ou là. Ce sont les familles, si elles souhaitent vacciner leurs enfants, qui ont vocation à prendre les rendez-vous. Ces nouvelles règles d'isolement plus souples pour éviter la paralysie de la vie économique et sociale reposent sur des tests très réguliers, même pour les personnes vaccinées. Si vous êtes cas contact, par exemple, un premier test en établissement le jour où vous l'apprenez, puis autotest à J+2 et J+4. Alors on en trouve désormais des autotests en vente en supermarché jusqu'à la fin du mois au moins. En pharmacie, ils vous seront distribués gratuitement si vous apportez la preuve de votre premier test. Bonne nouvelle, mais Karine Wolfthal est la présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
C'est une très bonne mesure, en effet, que les autotests soient distribués gratuitement, et je m'en réjouis. Sauf que nous ne sommes pas prêts à le faire dès aujourd'hui. Or, aujourd'hui, les distributeurs de tests ont été asséchés par, en effet, la grande distribution. Voilà, donc ça va être très compliqué d'avoir dans les délais et les tests et les vaccins, puisque dans la même lignée, on annonce une accélération massive de la vaccination. Mais sauf que la prochaine commande des livraisons de vaccins, on les recevra que dans 15 jours.
Karine Wolfthal, ce matin chez nos confrères de France Info, si les règles d'isolement sont un peu plus souples à partir d'aujourd'hui, d'autres deviennent plus strictes. C'est aujourd'hui encore qu'entre en vigueur le télétravail obligatoire, là où c'est possible, 3 à 4 jours par semaine. Les jauges pour les grands rassemblements, 2000 personnes maximum en intérieur, 5000 en extérieur, sous passe sanitaire. Et puis l'interdiction de manger et boire debout dans les bars-restaurants et de boire et manger tout court dans les transports publics. Même pas une petite gorgée d'eau. Avec quelle souplesse cette mesure est-elle adoptée ? Pour France Inter, Agera Mohamed a pris ce matin le TGV Paris-Lyon.
Il y a les voyageurs prévoyants comme Simon. Il dévore une dernière gourmandise sur le quai juste avant le départ.
Un croissant.
Vous prenez des forces, c'est ça ?
C'est ça. Bon, ça va, après, bon, c'est 2 heures. Je pense que je vais arriver à survivre quand même.
Pas le choix, il va falloir tenir.
La fermeture des portes est imminente. Attention, départ.
Le chef de bord rappelle la nouvelle consigne.
En application des mesures gouvernementales, il est strictement interdit de consommer à votre place durant toute la durée du trajet.
Globalement, la règle est respectée. Les paquets de chips et les boissons sont au fond des sacs. Mais dans cette voiture, on croise Mathieu. Ce jeune Lyonnais déguste tranquillement une clémentine.
Comme vous voyez, il n'y a personne autour de nous. Un carré de 8, j'étais tout seul à manger ma clémentine. Je pense que j'ai mis personne en danger en mangeant une clémentine.
Pas sûr que cette excuse passe. Seules les personnes fragiles et les enfants en bas âge peuvent se nourrir. D'ailleurs, Erwin a tout prévu pour son petit Noé.
Je lui ai prévu une petite purée. Et il a son biberon aussi, si jamais il a une petite fringale.
Et vous allez tenir, ça va ?
Ça va être compliqué. Je comprends pas trop, en tout cas, cette interdiction de manger. Avant, on n'avait pas le droit de manger au wagon-bar et on pouvait manger à notre place. Là, on n'a pas le droit de manger tout court. C'est des consignes un peu particulières.
La bonne nouvelle, c'est que le train est bien arrivé à l'heure, juste avant midi, parfait pour s'offrir un déjeuner pour les plus affamés.
Bon, c'est déjà ça, reportage à Gérard Mohamed. Aujourd'hui encore, des TER sont supprimés où le plan de transport est modifié. Faute d'agents suffisants pour assurer un service normal. Selon nos confrères de France Bleu, c'est le cas en Bretagne, en Normandie, dans les Hauts-de-France et en Moselle, où les transports scolaires sont également touchés. Le nombre de cas quotidiens, un record de plus de 230 000 le 31 décembre, va continuer à augmenter dans les prochains jours, confirme le ministre de la Santé, invité ce matin de France Inter. Et le mois de janvier sera difficile, d'abord à l'hôpital, évidemment. En soins critiques, le nombre de patients continue d'augmenter doucement, variant Delta essentiellement, 3572 patients en soins critiques. Mais Omicron va amener des patients dans les autres services des hôpitaux. Dans ce contexte, plus de 500 médecins de l'APHM, les hôpitaux de Marseille, lancent un appel à la vaccination dans le quotidien local La Provence. Bonjour professeur Jean-Luc Jouve.
Bonjour.
Chef du service de chirurgie orthopédique et pédiatrique à la Timone Enfant et président de la commission médicale d'établissement à la PHM. Le message central de cet appel, professeur Jouve, c'est de dire aux Marseillais et habitants des Bouches-du-Rhône, quand vous êtes malade, vous savez nous trouver, à notre tour de compter sur vous.
Oui, c'est exactement ça, dans la mesure où on va devoir affronter une vague de Omicron qui, si elle est comme elle se passe dans les pays où elle est déjà arrivée, va nous obliger à doubler notre capacité de lit. À cela, on a une réponse essentielle, c'est la vaccination. Notre région, elle est pauvrement vaccinée. Hein. Les Bouches-du-Rhône sont une des régions les moins bien vaccinées. La ville de Marseille encore plus, où on est à 70% de vaccination. On a besoin de l'aide de tous pour arriver à tenir la route.
70% de vaccination contre 82% par exemple à Paris. Quelle est la situation actuellement dans les hôpitaux de Marseille, professeur Jouve ?
Mais dans les hôpitaux de Marseille, les réanimations sont pleines, les services d'hospitalisation Covid sont pleins, mais on est encore sous le régime, si on peut dire, du variant Delta. Le variant Omicron représente encore peu. Et quand il va tourner à plein régime, si ça se passe comme ailleurs, on va avoir besoin de beaucoup de lits, c'est-à-dire de supprimer par solidarité pratiquement toutes nos activités non-Covid, sauf bien sûr les interventions urgentes.
Il y a déjà beaucoup de déprogrammation.
La déprogrammation est d'environ 70%. Actuellement, on garde essentiellement des grandes urgences comme la traumatologie, la cancérologie, ou la chirurgie cardiaque, ou la neurochirurgie très urgente.
70%, il y a déjà eu un tel taux de déprogrammation depuis le début de la crise sanitaire ?
Ça l'a fait pendant un certain moment, pendant la première vague, mais ce n'est pas ce qui nous effraie le plus. Ce qui nous effraie le plus, c'est que si le variant Omicron, comme on le dit, est très contagieux, on va être dans une situation encore plus complexe que celle-là.
Déjà, il y a eu des transferts de patients vers la Bretagne, vers Paris et Metz, c'est bien cela ?
Il y a eu déjà 5 transferts du département vers l'extérieur, ce qui a donné de l'air. Il faut comprendre que ça peut paraître un faible nombre, mais que quand un patient est en réanimation pour un Covid, il va rester en moyenne 3 semaines, c'est-à-dire qu'il va prendre autant de lits que cela, c'est-à-dire c'est une vraie petite réanimation qui, si on transfère 5 patients, c'est une vraie petite réanimation qui est transférée. Et pour nous, c'est capital.
Et il y a d'autres transferts d'envisager ?
Oui, l'Agence régionale de santé envisage d'essayer de faire d'autres transferts sur des régions moins impactées. Le problème avec la première vague, c'est que toutes les régions de France sont impactées par le Covid, ce qui n'était pas le cas la première vague.
Voilà, c'est la différence avec la première vague. Professeur Jouve, Olivier Véran était ce matin l'invité de France Inter. Il dit qu'entre vaccination et contamination, il est probable que nous ayons tous acquis une forme d'immunité et que cette vague est peut-être, insiste-t-il, la dernière. Est-ce que vous avez, dans un coin de l'esprit, cet espoir, vous aussi ?
On a tous cet espoir parce que c'est un espoir qui est basé sur l'histoire naturelle des grandes épidémies, des grandes pandémies. Donc on a l'espoir que petit à petit, l'immunité collective se développe, le virus s'atténue et l'épidémie disparaisse. Mais est-ce que ce sera sur cette vague-là ou sur les vagues suivantes ? Ça, on ne le sait pas, malheureusement.
Le professeur Jean-Luc Jouve, président de la commission médicale d'établissement à la PHM, entretien enregistré il y a moins d'une heure. Il devait être au moment du journal en réunion de crise aux hôpitaux de Marseille. Pas de décision en France sur une éventuelle 4e dose. On regarde ce qui se passe en Israël, dit le ministre de la Santé. Israël, où on élargit l'administration de cette 4e dose. Jusque-là, elle était réservée aux plus fragiles. Désormais, elle est ouverte au personnel soignant et aux plus de 60 ans. Alice Roussard.
C'est une vaccination qui commence au compte-gouttes, mais une chose est sûre, Israël devient le premier pays au monde à administrer une 4e dose du vaccin, précisé hier Naftali Bennett, le Premier ministre.
J'annonce qu'Israël commence à administrer cette 4e injection à tous les Israéliens de 60 ans et plus, ainsi qu'à nos merveilleux travailleurs médicaux, 4 mois après qu'ils ont reçu leur dernière dose. Israël sera donc encore une fois le pionnier de l'effort vaccinal mondial.
Mais tout n'a pas été si simple. Il y a d'abord eu des essais cliniques sur 6000 personnes, dont 150 soignants d'un hôpital en banlieue de Tel Aviv, pour étudier l'effet d'un nouveau rappel sur le niveau d'anticorps. Les résultats ont été concluants, mais la vaccination a d'abord été étendue seulement aux personnes à risque et aux pensionnaires des maisons de retraite. Elle l'est aujourd'hui pour tous les Israéliens de 60 ans et plus. L'idée est surtout de prendre une longueur d'avance face aux nouvelles contaminations, explique le professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie à l'université de Bar-Ilan.
C'est un moyen non pas de freiner la propagation de l'Omicron, parce qu'il va être impossible d'empêcher cette propagation, mais plus donner la possibilité à ceux qui le souhaitent d'avoir une protection supplémentaire contre ce variant Omicron.
C'est aussi ce que le Premier ministre a rappelé hier, exhortant à se faire vacciner sans plus attendre tous ceux qui ne l'ont toujours pas fait. Jérusalem, Alice Froussard, France Inter.
Et le gouvernement israélien, par ailleurs, annonce la réouverture la semaine prochaine des frontières, réouverture aux touristes étrangers qui sont vaccinés. Ces frontières avaient été fermées il y a un mois. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro est hospitalisé d'urgence. Pas de Covid, selon les premières informations, mais ce qui ressemble à une occlusion intestinale, douleur abdominale en tout cas. Il avait été poignardé lors de la campagne présidentielle au Brésil en 2018. Aux États-Unis, la courbe des contaminations au Covid est à la verticale, dit le principal conseiller de la Maison-Blanche, le docteur Anthony Fauci. Nous parlions des TER en France tout à l'heure. Aux États-Unis, c'est le programme de vol des avions qui est perturbé, faute de personnel, bon pied, bon oeil. 2000 vols annulés aujourd'hui. Voilà qui nous amène à l'impact économique de ces 5 et 6e vagues concomitantes. Pour les entreprises, la nouveauté du jour, c'est le télétravail obligatoire, là où c'est possible, 3 à 4 jours par semaine, au moins 1 de plus qu'avant donc. Et les contrôles seront renforcés, 5000 contrôles par mois contre 1 000 environ en octobre, précise la ministre Elisabeth Borne, qui annonce des sanctions administratives plus rapides à mettre en œuvre que les sanctions pénales pour les entreprises récalcitrantes. Jusqu'à 1 000 euros d'amende par salarié, payé par les entreprises évidemment. Alors voilà pour le cadre qui se resserre et les menaces de sanctions. Du côté des aides, réunion ce matin à Bercy pour faire le point. Les professionnels les plus inquiets sont ceux de la restauration, de la culture, des salles de sport, du voyage, les petites entreprises. Une quarantaine de personnes suivaient les propos de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, en cette mi-journée à Bercy. Bonjour Philippe Lefebvre.
Bonjour Bruno.
En direct de Bercy, que retient-on de cette rencontre, Philippe ?
Eh bien, tout d'abord qu'ici à Bercy, on a repris les bonnes vieilles habitudes puisque cette réunion avait lieu à distance. Tous les protagonistes, tous les acteurs du monde de l'entreprise, du tourisme, des voyages, de la restauration étaient tous dans leurs bureaux respectifs. Alors côté annonce, certaines mesures ont été affinées. L'activité partielle à 100% a été étendue aux entreprises ayant perdu 65% de leur chiffre d'affaires contre 80% précédemment. Et puis la prise en charge des coûts fixes sera étendue aux entreprises ayant perdu 50% de leur chiffre d'affaires contre 65% auparavant. Par ailleurs, pour ce qui est des remboursements, des sommes, justement, eh bien, pour tout ce qui est moins de 50 000 euros, les services de Bercy vont mettre le turbo, a dit Bruno Le Maire. Elle devrait désormais intervenir en quelques jours et non plus en quelques semaines. Enfin, le ministre de l'économie a annoncé qu'il étudiait de très près l'éventuelle exonération de charges, très demandée par les entreprises, notamment de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi que de nouvelles modalités de remboursement des prêts garantis par l'État pour les petites entreprises très inquiètes à l'approche des premiers remboursements. Des réponses pourraient être données dans les prochaines heures, voire les prochains jours, après consultation de la Banque de France et des instances européennes.
De Lefebvre en direct de Bercy pour France Inter. Philippe Lefebvre avec les moyens techniques de Lucien Lefebvre. La CGT, à propos des contrôles télétravail, pose la question des moyens accordés aux inspecteurs du travail. Chaque inspecteur, selon le syndicat, a un millier d'entreprises à contrôler, c'est le cadre général, Covid ou pas, avant même la première vague, c'était mission impossible, estime la CGT. Le contexte sanitaire, par ailleurs, n'a pas l'air d'inquiéter les investisseurs à la Bourse de Paris. Un nouveau record a été battu ce matin en séance. Le CAC était dans la matinée au-dessus des 7200 points. L'actualité économique, c'est aussi l'inflation qui prend un tour toujours plus impressionnant. En Turquie, les prix ont augmenté de 36% sur un an en décembre. En France, la campagne électorale ne peut pas être la même quand plus de 200 000 personnes sont contaminées chaque jour. Le projet de loi sur le pass vaccinal est examiné à partir de cet après-midi à l'Assemblée et à moins de 100 jours du premier tour de la présidentielle. Cette campagne est reprise ce matin sur France Inter avec la première des matinales spéciales Élysée 22 dont Jean-Luc Mélenchon était l'invité. On en reparle dans un instant. D'abord, à quoi va ressembler cette campagne sous Covid en janvier ? Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Virus ou pas, les candidats sont en déplacement dès cette semaine.
Anne Hidalgo en visite demain à l'hôpital Bichat à Paris, où se rendra aussi Fabien Roussel dans la semaine. Confirmation au passage que la crise de l'hôpital public sera bien un thème important de la campagne. Valérie Pécresse en déplacement demain sur les violences faites aux femmes en Ile-de-France, puis jeudi dans le Vaucluse sur la sécurité. Yannick Jadot à Bordeaux, mercredi sur la jeunesse. Marine Le Pen en fin de semaine à Carcassonne, Perpignan et Béziers, terre d'élection pour elle. Éric Zemmour, vendredi, dans l'Eure-et-Loire, en réunion publique. Quant à Emmanuel Macron, candidat pas encore déclaré, mais bien décidé à occuper le terrain. Il prévoit plusieurs déplacements thématiques dans les prochaines semaines pour défendre son bilan.
Bon, la campagne a bel et bien repris après la trêve de Noël. Rappelons qu'au nom de la nécessaire tenue du débat démocratique, les meetings sont autorisés, sans juge, sans jauge, ni passe. Ça, c'est sur le papier. Ensuite, chaque candidat, chaque équipe fixe ses règles.
Et Marine Le Pen, ce matin, choisit de ne pas trancher. En tout cas, pour l'instant, la candidate du RN préfère reporter son grand meeting de Reims du 15 janvier au 5 février. Elle explique que c'est à cause du pic épidémique prévu à la mi-janvier. Du côté de La République En Marche, évidemment, mais aussi des Républicains et des Socialistes, on a déjà dit qu'on appliquerait ces jauges et qu'on demanderait le pass, même si légalement on ne peut pas l'exiger. Du côté des communistes, on va encore plus loin en promettant un masque FFP2 pour chaque participant. Masque FFP2 aussi chez Jean-Luc Mélenchon qui tiendra son grand meeting le 16 janvier à Nantes, mais ni jauge ni passe chez les Insoumis. Enfin, Éric Zemmour a déjà indiqué également qu'il n'appliquerait pas ces jauges. On voit en tout cas apparaître ce nouvel argument électoral, Bruno, celui de l'exemplarité sanitaire, décidément une drôle de campagne.
Et nous parlions du débat sur le pass vaccinal à partir de cet après-midi à l'Assemblée, avant le Sénat. À nouveau, des députés de la majorité présidentielle qui défendent la politique sanitaire du gouvernement font état de menaces de mort à leur encontre et annoncent s'apprêter à porter plainte. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, invité de France Inter ce matin, parmi les détails de son programme déjà connu, il a défendu l'inscription d'une série de droits dans la Constitution.
Je voudrais que les libertés fondamentales de la personne humaine soient réinscrites dans la Constitution. L'IVG. Ça, c'est un exemple. Le deuxième, c'est le droit de mourir dans la dignité. Et le troisième, c'est la liberté du genre.
Notre texte fondamental doit aller dans ce degré de précision-là.
Oui.
Jean-Luc Mélenchon avec Léa Salamé et Nicolas Demorand ce matin sur France Inter. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Droit à la liberté du genre inscrit dans la Constitution. Alors encore une fois, ce n'est pas nouveau chez Jean-Luc Mélenchon, mais c'est un point notable de son programme.
Oui, c'est ce qu'il appelle les droits nouveaux. La liberté de genre fait partie d'un triptyque avec l'interruption volontaire de grossesse et le droit à mourir dans la dignité. En 2017, donc, elle figurait déjà dans le programme du candidat insoumis. L'entourage de Jean-Luc Mélenchon explique que les souffrances infligées à ceux qui ne se reconnaissent pas dans l'identité qui leur a été assignée à la défense à la naissance est un sujet de préoccupation depuis longtemps, surtout que le sujet est régulièrement instrumentalisé par la droite et l'extrême droite. Alors Mélenchon élu, il se passera quoi? Une loi sera proposée au Parlement pour permettre notamment de changer d'identité sur simple déclaration à l'état civil, comme cela par exemple se pratique en Argentine. L'inscription dans la Constitution, ça c'est un autre processus. Là c'est la constituante, l'Assemblée délibérante, qui doit faire passer la France de la 5e à la 6e République. Oui. C'est donc la constituante qui inscrira dans la nouvelle Constitution la liberté de genre, le droit à mourir dans la dignité et donc l'interruption volontaire de grossesse.
Et Jean-Luc Mélenchon lui aussi critique le choix d'Emmanuel Macron d'avoir pavoisé l'Arc de Triomphe du seul drapeau européen ce week-end pour marquer le lancement de la présidence française du Conseil des ministres européens, caprice de communication pour l'insoumis. À droite, Valérie Pécresse estime qu'Emmanuel Macron a un problème avec l'histoire et dans la série janvier Covidé, on vient d'apprendre que le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, était positif au Covid. Il est placé à l'isolement.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvy.
Cela va vous agacer ou peut-être vous plaire, au contraire. Un nouveau type de radar va faire son apparition sur les routes de France demain. Radar contre la pollution sonore, des deux roues en particulier. Le premier sera installé à Saint-Lambert, dans la vallée de Chevreuse, dans les Yvelines. Une phase de test se tiendra pendant 6 mois, puis si le feu est vert, eh bien, des verbalisations pourront être administrées. Alors comment ça marche? Élément de réponse avec Fanny Metlicky, directrice de Bruit Paris, l'observatoire du bruit en Ile-de-France. 3 modèles sont expérimentés les uns à côté des autres, dont celui de Bruit Paris.
C'est un coffret qui fait à peu près 1,40 m de hauteur et peut être fixé sur un candélabre d'éclairage public, typiquement, ou sur un mât. Ce boîtier intègre en fait des capteurs à la fois pour mesurer le niveau sonore, mais aussi pour déterminer avec précision la provenance du bruit et la distance de la source émettrice de bruit par rapport au capteur. Et on intègre également à la fois une caméra vidéo grand angle pour filmer en fait au passage des véhicules la scène à 180 degrés, et puis également des caméras LAPI. C'est ce qui va permettre de prendre une photo de la plaque d'immatriculation du véhicule qui sera jugé en infraction. On a déjà pu tester sur piste d'essai cette capacité à bien identifier séparément les contributions de chacun des véhicules lorsqu'il y en a plusieurs qui passent en même temps. Voilà. Après, évidemment, il y aura des contextes. S'il y a trop de véhicules qui passent vraiment simultanément, on ne sera pas en capacité de détecter celui qui émet le plus de bruit, et donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de verbalisation.
Propos recueillis par Mathilde Dehimi, le seuil au-delà duquel le contrevenant risquera une verbalisation n'est pas encore fixé. Un radar donc en vallée de Chevreuse, mais aussi dans les jours à venir à Nice, Toulouse, Bron près de Lyon et en région parisienne à Paris même, Rueil-Malmaison, Villeneuve-le-Roi et Saint-Forget. Dans la vente de produits dérivés du cannabis, les règles en France se précisent. La vente et la consommation de fleurs et feuilles de cannabis CBD est désormais interdite. Fleurs ou feuilles brutes ou sous la forme de mélange. Le CBD est une molécule non psychotrope du cannabis. On compte environ 2000 boutiques dédiées au CBD en France. Et dans le Berry, elles fleurissent. Rien qu'à Châteauroux, on en compte une petite dizaine. Cette mesure est donc un coup dur pour les commerçants, sachant que les fleurs de CBD représentent la quasi-totalité de leurs ventes, Justine Clos.
Dans sa boutique de Châteauroux, Nicolas Lemaigre vend de l'huile, des baumes et des infusions à base de CBD. Mais la fleur, ça reste vraiment le gros de son business. Alors cette mesure, il la prend très mal.
Parce que la fleur de CBD, ça représente à peu près 60% de mes ventes. Et je pense qu'au niveau du chiffre d'affaires, même si je me rabatte sur les produits transformés, je perds des clients, ça c'est sûr.
La pilule est encore plus difficile à avaler pour ce gérant qui vient tout juste d'ouvrir son commerce. Avec cette interdiction, il redoute la faillite, sans compter
qu'il se retrouve avec de gros stocks de fleurs de CBD sur les bras.
On en fait quoi, du coup? C'est ça le truc. J'ai quand même un gros stock, j'ai plusieurs milliers d'euros de marchandises et qu'est-ce que je vais en faire? Ils vont nous les rembourser? Ça se passe comment? Je sais pas trop. C'est du grand n'importe quoi.
8000 euros de marchandises, précisément, perdues, qu'il ne peut plus vendre. Cette décision du gouvernement, Nicolas Lemaigre ne la comprend pas.
Là, on payait une TVA sur nos produits, donc ça rapportait de l'argent à l'État. Et je pense qu'ils n'ont pas du tout réfléchi au, même au commerce qui vient de se lancer et à l'impact que ça a à faire au niveau de l'économie. Parce que le CBD se développe à une vitesse grand V et là, ils enfoncent encore plus le clou. Je ne comprends pas.
Depuis la légalisation du CBD, 1700 boutiques ont fleuri en France.
Et la vente d'huile et de crème à base de cannabis reste autorisée. C'est une exposition présentée depuis le 24 novembre à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Juifs d'Orient, une histoire plurimillénaire. Eh bien, cette exposition est visée par une pétition d'intellectuels du monde arabe, quelques 300 signatures. Les militants protestent contre la présence d'œuvres prêtées par le musée de Jérusalem. C'est le régime israélien qu'ils visent, Alexis de Meyer.
À l'origine de la pétition, le mouvement pro-palestinien BDS qui appelle au boycott systématique des produits israéliens. La lettre ouverte à l'Institut du monde arabe dénonce, je cite, « la tentative de présenter Israël et son régime de colonialisme comme un État normal ». Parmi les signataires, la chanteuse Natacha Atlas, le cinéaste Elias Souleymane ou encore l'écrivain Elias Rouri.
Je ne suis pas avec le boycott des Israéliens comme individu, comme artiste, mais je suis pour le boycott des institutions israéliennes qui font partie de cette machine d'occupation et d'apartheid. J'étais étonné quand j'ai vu la déclaration de M. Jacques Lang qui a salué les accords de normalisation des relations entre le Maroc et Israël.
Mais Jacques Lang, qui préside l'Institut du Monde Arabe, réfute un quelconque lien entre l'exposition et les récents accords d'Abraham qui normalisent les relations entre Israël et plusieurs pays musulmans.
Nous aurions imaginé cette exposition en lien avec les accords d'Abraham. C'est totalement stupide. C'est une contre-vérité. J'ai imaginé cet événement bien avant. Aujourd'hui, l'Institut du Monde Arabe est probablement l'institution culturelle qui, au monde, consacre autant d'événements à la culture palestinienne.
Jack Lang rappelle aussi que c'est l'historien de référence Benjamin Stone qui a été chargé de concevoir cette exposition.
Et cette exposition juive d'Orient, une histoire plurimillénaire, se déroule jusqu'au 13 mars à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Les 16e de finale de la Coupe de France de foot, quant à eux, se prolongent jusqu'à demain. Ce soir, Vannes, 4e division, reçoit les stars du PSG. Rien que cela, vous imaginez les supporters, la part de rêve.
C'est le match de l'année, voire des 10 dernières années. Hein. On peut voir le PSG tous les jours à la Rabine. Dans les 3, il y aura quand même Mbappé. Toujours beau de voir ça.
Oh bah on peut pas habiter la région, être passionné de foot et pas assister à un match comme ça. C'est magique. On vient pour supporter puis pour voir du beau football. Hein. On va en prendre plein les yeux, j'espère.
Et puis, la victoire. En Coupe de France, tout peut se produire. Hein. Après, bon, en face, ça va être du lourd, mais bon, faut y croire.
On espère. J'ai mon match depuis l'âge de 18 ans. Alors, j'en ai 85, alors vous voyez, hein, en espérant qu'il passe là-dessus, quoi. Hein.
Et la Rabine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le stade de Vannes qui ne pourra pas accueillir plus de 5000 spectateurs. Jauge oblige. Pas de Messi, en effet, ce soir. Lionel Messi, covidé. Demain, dernier match des 16e de finale de la Coupe de France, Lens-Lille. Parmi les résultats du week-end, l'élimination de Rennes et la qualification du club de Bergerac, 4e division. Dans un instant, la météo.
France Inter M. Sur N Cité Danse. Rendez-vous incontournable de la danse hip-hop et contemporaine. Voici 30 ans que Sur N Cité Danse est en mouvement. Ne manquez pas cette édition anniversaire exceptionnelle. 6 semaines, 9 créations, 17 spectacles et plus de 80 danseurs. Venez partager à Suresnes le meilleur de la danse des cités et un festival qui met en lumière de nouvelles formes de danse. Suresnes Cité Danse, du 7 janvier au 13 février, au Théâtre de Suresnes Jean Villard. Un événement France Inter.
Voyons le temps de ce jour.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
La France est coupée en deux ce 3 janvier.
Oui, avec du soleil au sud, alors peut-être encore quelques grisailles tenaces vers la Garonne. Le soleil est un petit peu terni par des nuages élevés entre le nord de l'Aquitaine et les Alpes. C'est plus nuageux vers les Alpes-Maritimes, vers le sud-ouest de la Corse aussi. Le vent atteint 50 à 70 km à l'heure sur les côtes varoises et les côtes corses. Et puis plus au nord, là le ciel est gris, avec quelques pluies possibles, du vent, des pluies qui vont devenir un peu plus organisées entre la Bretagne, la Normandie, le bassin parisien, le nord Nord et la Lorraine. Elles vont d'ailleurs se renforcer d'abord sur la Bretagne et sur le Cotentin, puis sur toute la moitié nord ce soir et cette nuit. Le vent lui aussi va se renforcer cette nuit jusqu'à 80 km à l'heure sur les côtes du sud de la Bretagne à la Vendée. Côté thermomètre, ça reste doux avec 11 à 20 degrés, 11 à Lille, 13 à Strasbourg, Paris, Rennes, 15 à Clermont-Ferrand, 17 à Bordeaux et Toulon et 20 à Biarritz. Il va falloir attendre le milieu de semaine,
oui,
pour avoir des températures de saison.
Il fait décidément très doux dans le sud-ouest. 20 à Biarritz. Merci Élodie Calac. Il est 13h30.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvy.
Plus de 230 000 contaminations au Covid le 31 décembre. C'était en 2021, certes, mais cela va continuer en 2022. Le nombre de contaminations quotidiennes va continuer à augmenter, disait Olivier Véran ce matin sur France Inter. Les règles d'isolement sont assouplies pour éviter une paralysie de l'activité économique et sociale. Et dans le même temps, le télétravail est renforcé. 3 à 4 jours obligatoires là où c'est possible, contre 2 à 3 jusque-là. Les conséquences de cette double vague de Covid, Omicron et Delta sur la vie des entreprises, sur les chefs d'entreprise, sur les salariés. C'est notre sujet jusqu'à 13h45. Bonjour Dominique Carlac.
Bonjour.
Vous êtes la vice-présidente et la porte-parole du MEDEF. J'invite les auditeurs à dialoguer avec vous au 01 45 24 7000 et via l'appli France Inter, rubrique Réagir. Y a-t-il déjà des remontées? Vous a-t-on fait état de beaucoup d'absentéisme dans les différentes entreprises?
À date, ce matin, ouais, on n'a pas encore ces remontées. On va les avoir d'ici la fin de la semaine, hein, parce ouais, que c'est quand même un peu la rentrée pour tout le monde. Une rentrée quand même sur une petite note d'optimisme, quand même, malgré tout. La conjoncture économique est bonne,
oui,
quand même, il ne faut pas l'oublier.
Et vous n'avez pas peur que ça s'abîme?
C'est un peu toute la difficulté, parce que les fondamentaux sont bons, l'économie française est à nouveau compétitive, la conjoncture mondiale, elle est plutôt porteuse. Maintenant, il y a des mais, effectivement. Les mais, c'est les tensions sur les matières premières,
ouais,
c'est les transitions qu'il faut assurer, hein, transition énergétique et numérique, et puis c'est surtout, effectivement, l'arrivée de ce Omicron,
ouais,
qui a mis un petit peu un coup sur la tête à tout le monde, pas que aux chefs d'entreprise. Hein. Tout le monde a pris un coup en cette fin d'année 2021 et pour ce début d'année 2022.
Donc, mais pour l'instant, la vice-présidente du MEDEF est optimiste.
Et optimiste sur le plan économique. Après, ouais, c'est un triptyque, hein, un triptyque où il faut garder l'optimisme économique, social et sanitaire. Et c'est ça qui est toute la difficulté d'un chef d'entreprise aujourd'hui, c'est ouais, d'articuler cette vague porteuse économique tout en faisant attention au climat social dans les entreprises. Et on va parler du télétravail, autant vous dire que c'est un sujet qui n'est pas forcément très clivant en entreprise. On était tous alignés en fin d'année dernière avec les partenaires sociaux, que ce soit représentants des entreprises, des patrons et représentants des salariés, pour dire attention, le télétravail n'est pas toujours la solution,
ouais,
pour pouvoir avoir à la fois une vie économique normale, ça c'est sûr, mais même une vie sociale normale.
Et c'est toujours le discours que vous tiendriez aujourd'hui, en pleine double vague de Covid?
D'abord, le discours qu'on tient aujourd'hui, c'est un discours qui est complètement dans la ligne de ce qu'on nous demande de faire. C'est-à-dire qu'on nous demande de faire 3 jours minimum de télétravail. Ouais. On l'a déjà fait, rappelez-vous, hein, lorsqu'il y a eu la première vague.
Oui. Il y avait eu des difficultés dans les secteurs de l'assurance et de la banque, par
tout
exemple.
Tout à fait. Alors, ça peut se comprendre parfois. Je vais vous donner un exemple pour la banque, par exemple. Là, aujourd'hui, on nous dit, 3 jours de télétravail minimum.
Oui.
Tout le monde va respecter ça. Mais le diable se niche dans les détails, parce qu'on pourrait croire spontanément que des fonctions dans la banque sont toutes télétravaillables. Un agent qui est derrière un ordinateur, ça peut être télétravaillable, ça se comprend.
Chez lui ou en agence, on se dit que c'est à peu près jouable.
C'est à peu près jouable. Sauf que certaines banques permettent à leurs conseillers de consulter les comptes des clients chez eux, et puis d'autres pas, pour une question de sécurité, parce que vous imaginez bien que quand vous avez votre ordinateur chez vous, c'est peut-être pas les mêmes conditions de sécurité de consulter les comptes d'un client, ouais, depuis chez soi ou depuis son établissement bancaire, où là il y a des réseaux informatiques sécurisés. Enfin, donc c'est pas si évident.
Dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, des secteurs comme les banques et l'assurance doivent pouvoir s'adapter sans trop de difficultés.
Bien sûr, mais encore une fois, le diable se niche dans les détails, parce que certaines fonctions sont télétravaillables, ouais, complètement. Dans le secteur des études, par exemple, qui est un secteur, ouais, que je connais bien, oui, on peut facilement télétravailler depuis chez soi. Il y a deux mais quand même à avoir. C'est d'abord la santé psychologique des collaborateurs, parce que parler 5 jours sur 5 en Zoom, en visioconférence, avec ses collègues, avec ses chefs, avec ses clients. Au bout d'un moment, il y a vraiment une peine et une tension nerveuse qui s'installe que l'on n'a pas quand on est sur son lieu de travail. Donc ça, c'est quand même un premier point à prendre en compte. Et puis le deuxième point à prendre en compte, c'est qu'il peut y avoir, dans certaines entreprises, le phénomène d'injustice ressentie entre col blanc et col bleu. C'est-à-dire que dans certaines industries, par exemple, je vais prendre l'exemple dans l'industrie aéronautique, par exemple. Vous êtes en bureau d'études. Normalement, vous pouvez travailler aussi à distance. Oui. Vous êtes sur une ligne de production, vous ne pouvez pas travailler à distance. Oui. Donc il y a ce phénomène d'injustice ressentie au sein même d'une entreprise qui fait qu'il faut harmoniser un petit peu tout ça et veiller à faire le nécessaire pour contrer la propagation du virus, mais pas la totalité en télétravail, parce que ça crée d'autres problèmes.
Ce qui n'est pas le cas, hein, c'est 3 à 4 jours.
Ce qui n'est pas le cas, 3 à 4 jours, et 3 jours, on le fera.
Dites-moi si je déforme votre pensée, j'entends, ok, on le fera, mais j'entends des petites réticences encore, quand même, à l'égard de télétravail, comme si vous aviez peur qu'on perde en productivité, en efficacité.
Non, la réticence ne porte pas sur l'organisation du télétravail, puisqu'on l'a déjà fait, et on s'y est d'abord plié, quand on n'avait aucune recommandation, mais il fallait le faire, et on sait le faire 2 ans après le début du Covid, on sait maintenant télétravailler. Je rappelle que avant le Covid, seulement 3% des salariés en France bénéficiaient d'un accord de télétravail. Oui. Aujourd'hui, tout le monde qui pouvait télétravailler a télétravaillé à un moment donné. Donc les chefs d'entreprise et les managers savent organiser le télétravail. Là où ça a tiqué, là où ça a été plus compliqué, où c'est pas trop passé dans nos rangs des chefs d'entreprise, c'est les sanctions. Parce que les sanctions, c'est une rupture de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, partir sur une sanction de 1000 euros par salarié...
Et administrative pour aller plus vite.
Là où on se dit, par comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut, mais quelqu'un qui produit un faux pass sanitaire, il a une amende entre 135 euros et 1000 euros, alors que c'est un acte délibéré d'incivisme, c'est là où ça a pu grogner dans nos rangs, au sens où pourquoi part-on directement sur la sanction alors qu'on joue le jeu depuis le début ?
En même temps, là où il y a règle, il doit y avoir une menace de sanction la règle n'est pas respectée.
Mais la règle est respectée. C'est là où le bât blesse. La règle est respectée. Alors, il y a toujours des mauvais élèves dans n'importe quelle classe que vous passiez. Dans n'importe quelle classe, il y a toujours des mauvais élèves, il y a toujours des contrevenants. Mais la majorité des entreprises ont joué le jeu. Et c'est pour cela qu'on a été approvisionnés. Je pense à la grande distribution, je pense à tous les services dont ont besoin nos concitoyens. Ils ont été approvisionnés parce que le monde du travail a continué à tourner. Et dans les règles.
Est-ce que les entreprises vont distribuer, par exemple, des autotests aux salariés ? Est-ce que c'est une chose qui est prévue ?
Alors, pour l'instant, ça n'est pas encore prévu, puisque le protocole doit être établi dans chaque entreprise. À titre d'exemple, ce matin, moi, j'ai fait une réunion dans mon entreprise. Oui. Nous allons fournir des masques FFP2 pour les transports. Le soir, chaque collaborateur aura 2 masques FFP2, l'un pour rentrer, l'un pour quand il reviendra au bureau. Et nous allons fournir des autotests, parce qu'effectivement, le cas compliqué des cas contacts, il va falloir le gérer et le gérer au mieux. C'est là où il y a encore une zone d'ombre, parce qu'aujourd'hui, quand on est cas contact, il faut se tester immédiatement en pharmacie ou en laboratoire, puis à J+2 et à J+4, faire un autotest.
Je vois que vous avez bien suivi les nouvelles consignes qui ne sont pas faciles à suivre.
Absolument. Et pourtant, je suis dirigeante d'une PME, donc comme quoi, même en PME, on sait faire les choses très bien. Et donc, pour ce qui concerne certaines entreprises, oui, je pense qu'elles fourniront des autotests.
Mais ce sera
au cas par cas, puisque les protocoles ont été élaborés dans chacune des entreprises. Ils tournent déjà dès ce lundi matin.
On peut imaginer des achats groupés par branche professionnelle, par exemple, c'est compliqué ?
Par exemple, mais on ne peut pas engager, c'est pas une obligation qui nous est faite, mais un chef d'entreprise, encore une fois, qu'est-ce qu'il cherche à articuler ? Il cherche à articuler la continuité économique, un climat social favorable et à freiner la pandémie comme chaque concitoyen. Donc si pour freiner la pandémie, il faut des mesures de protection des salariés, des mesures de distanciation sociale renforcées, assez normalement et assez logiquement, il va se fournir en équipement nécessaire au frein de la circulation du virus.
40% de postes télétravaillables à peu près, dit le gouvernement. Est-ce que vous êtes sur cette évaluation-là ?
Je ne saurais pas vous dire la statistique exactement. La notion qui est importante, c'est le mot télétravaillable. Parce qu'il y a un pourcentage, donc on peut dire 40% des postes, mais encore une fois, je le redis, un poste qui peut sembler télétravaillable ne l'est pas toujours. Quelqu'un qui est derrière un micro, comme vous, pourrait être derrière son micro, peut-être à la maison.
Ça se fait.
Quelqu'un, voilà, ça se fait. Mais vous ne pourriez pas le faire 5 jours sur 5. Parce qu'à un moment donné, il faut un minimum de coordination dans ce que vous allez dire, présenter. Bah, dans les entreprises, c'est pareil. Dans les entreprises, c'est à un moment donné, vous pouvez croire qu'un tel fait partie des 40% télétravaillable, sauf qu'il ne l'est pas télétravaillable à 100%. D'où une mesure plutôt pragmatique, hein. C'est un équilibre, 3 jours minimum par semaine, ça permet de rentrer à peu près dans l'épure de ce qui est télétravaillable et ce qui ne l'est pas.
Je reviens sur ma question de tout à l'heure, Dominique Carlag, vous qui êtes vice-présidente du MEDEF. Diriez-vous, maintenant on a quasiment 2 ans de recul sur les premières expériences de télétravail assez massif, qu'en termes de productivité, ça a un impact positif, négatif ou nul ?
Ça a changé. Je ne sais pas si on peut parler d'impact positif ou négatif. Ça a changé les méthodes de travail. Et c'est peut-être ça qui, dans un premier temps, a ralenti le travail. Parce que effectivement, quand vous êtes tout seul à la maison, vous n'êtes dérangé par rien. Si ce n'est l'ennui, peut-être, d'être tout seul. Mais vous n'êtes dérangé par rien. Donc, intuitivement, vous pouvez avancer plus vite, comme on dit. Le problème, c'est que la coordination manque. Or, aujourd'hui, on travaille pas seul, chacun dans notre coin. Quand on est dans une entreprise, quand on est dans un service public, on travaille en interaction avec quelqu'un, un chef, un collègue. Et donc, ce manque d'interaction peut aussi ralentir les choses.
Donc 2 ans après, au fond, vous n'avez pas une vision précise sur l'impact en termes d'activité du télétravail.
2 ans après, on peut considérer qu'il y a des phases d'accélération, donc de productivité augmentée, oui. Mais alors il y a des phases de doute qui font que la productivité n'est pas favorisée dans ces phases de doute.
Vous disiez le diable se cache dans les détails, message d'auditeur, et c'est souvent ceux pour qui ça se passe mal, hein, qui se manifestent. J'imagine. Mon employeur refuse totalement le télétravail alors que notre activité le permettrait sans difficulté. Que faire ?
Ben, on va essayer de les convaincre, hein, nous-mêmes, dans nos rangs. Bien sûr, il y a toujours des contrevenants, bien sûr, il y a toujours des gens qui ont peur du télétravail. On y arrive, donc on va envoyer, nous, pas plus tard que d'ici la fin de journée ou d'ici, en tout cas, à minima, la fin de la semaine, encore une fois, des notes de recommandation de comment bien organiser le télétravail. On a signé l'année dernière un ANI, Accord National Interprofessionnel, qui fixe les règles de l'organisation du télétravail dans les entreprises. Donc nous, on essaye de faire de cette pédagogie à l'égard de tous les secteurs. Mais ça n'est pas évident, encore une fois, parce que certains secteurs, c'est beaucoup plus dur à mettre en place.
Ça va très vite et j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, Dominique Carlag. La remarque de Laurent, il n'y a pas que le Covid qui soit en jeu concernant le télétravail, il y a également l'aspect environnemental, par exemple. Est-ce que le MEDEF compte développer quelque chose là-dessus ? Développer le télétravail aussi pour éviter les transports, enfin voilà, limiter l'impact environnemental.
D'abord, on a une commission qui s'occupe de ça, oui. Au MEDEF, et quand je vous lisais en introduction un mot d'optimisme dans le contexte. Le contexte économique va bien, mais on a un certain nombre de transitions à assumer. La transition écologique en est une. Alors là, on est content avec la taxonomie européenne,
oui.
Puisque le nucléaire a été classé dans ce qu'on peut appeler l'énergie verte.
Ce que vous accueillez comme une bonne nouvelle.
Oui, ce qu'on accueille comme une bonne nouvelle, parce que nous considérons que le nucléaire est une énergie propre et que, en plus, il emploie beaucoup
de salariés
oui. Tant dans la production que dans la recherche, et c'est plutôt un facteur de compétitivité de la France que de maîtriser sa capacité énergétique. Et oui, pour revenir sur la question de l'auditeur, nous avons des plans de réflexion et d'action sur l'accélération de la transition énergétique et écologique au MEDEF.
Il nous reste un peu plus d'une minute. 2 questions ponctuelles. Réunion ce matin à Bercy avec les secteurs en difficulté. Pas d'annonce majeure. Un peu plus d'entreprises où l'activité partielle sera prise en charge à 100%. Et la question des prêts garantis par l'État. Y a-t-il beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés à les rembourser ?
Alors, il y a quelques entreprises.
Quelques
entreprises, mais pas beaucoup d'entreprises. Encore une fois, la conjoncture a été meilleure. Maintenant, sur les entreprises très en difficulté, je pense au monde du sport, par exemple, qui, oui. À nouveau, va être en difficulté. Je pense qu'il ne faut pas les oublier et qu'il va falloir retourner vers des aides qui vont les aider à passer cette nouvelle vague.
À ce stade, la présence de l'État, je parle de présence financière. Est à la hauteur, selon vous ?
Alors, pour les secteurs en difficulté, nous l'espérons, il va falloir fixer un seuil. C'est en deçà de quel pourcentage de baisse d'activité on va aider les entreprises, et c'est là-dessus que ça va se jouer dans les heures qui viennent.
J'entends pas de votre part. Pour l'instant, on nous aide pas suffisamment.
Non, on ne peut pas dire ça. Ouais. On ne peut pas dire ça. Pour l'instant, on a une écoute attentive.
Et on en a dit qu'un mot. On a beaucoup parlé du télétravail. Le protocole d'isolement cas contact malade qui est assoupli, ça a un écho positif de votre part ?
C'est pragmatique. Tous les pays l'ont fait. C'est pragmatique. Dès lors qu'on peut continuer à se tester et à ne pas contaminer son collègue, c'est pragmatique.
Merci Dominique Carlac, vice-présidente, merci, porte-parole du MEDEF, d'être venue dans les studios de France Inter. 13h44.
France Inter, le 13-14.
À suivre dans les minutes à venir. Bonne année, Jean Lebrun.
Bonne année, Bruno.
Le vif de l'histoire, le Covid, encore le Parlement à l'épreuve du Covid.
Oui, santé démocratique et santé publique, est-ce que ça va toujours de pair ?
Est-ce que ce sera dans 10 minutes que le Covid a révélé, a mis en lumière un peu plus les déserts médicaux, le manque de structures de soins ? Ce sera notre feuilleton, nous allons dans le Maine-et-Loire toute la semaine. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Un philosophe vous parle d'une chanson aujourd'hui. Il est aussi romancier. Il s'appelle Charles Pépin. Il reprend ce soir ses lundis philo au cinéma MK2 Odéon à Paris.
Ces lundis philo, ce sont des conférences qu'il donne chaque lundi autour d'une question philosophique. La dernière, c'était « Méritons-nous ce qui nous arrive ?» Cette fois, ce sera « La vie n'est-elle qu'une grande improvisation ?» Beau sujet. Et c'est un très beau titre de Christophe qu'il a voulu que l'on écoute. Musique de Christophe, paroles de Jean-Michel Jarre, un tube sorti en 1974 et que Charles Pépin a découvert une douzaine d'années plus tard, au début de l'adolescence. Cette chanson, c'est « Les mots bleus ».
J'ai tout de suite adoré, j'étais tout jeune, ça m'a tout de suite raconté plein de choses, ça m'a semblé être une définition de l'existence au fond, on attend comme ça, on se fait des films, on attend le moment, ce que les Grecs appelaient le kairos, et puis on n'ose pas y aller, et puis on y va ou on n'y va pas, et puis on parle avec les mots ou sans les mots, parce que les mots bleus c'est une absence de mots en fait, je lui dirais les mots bleus ça veut dire je n'aurais pas besoin de parler. Pour moi, tout est là. Moi, je fais que parler depuis toujours. Je suis prof, conférencier. Et en même temps, cette chanson dit que peut-être c'est du bavardage, hein, que l'essentiel est ailleurs.
Et vous avez l'impression parfois, vous, de parler trop ?
Oui. Parfois, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'apprends avec le temps, notamment de conférence en conférence, c'est à supporter le silence et à pas avoir peur du silence. Et finalement, la chanson, elle parle de ça aussi.
Il est 6 heures, clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre.
Les mots bleus, mais ce n'est pas la voix de Christophe qu'on entend là, c'est celle d'un autre grand disparu, Frédéric.
Oui, c'est la reprise d'Alain Bachung qu'a choisi Charles Pépin. Charles Pépin, qui j'ai demandé s'il était déjà tombé amoureux sur cette chanson-là.
J'ai pas fait de rencontre sur la chanson de la rencontre, mais en revanche, j'ai souvent pensé à cette chanson au cœur de rencontres, et peut-être que j'ai été préparé à des vraies rencontres par cette chanson. Notamment cette question d'oser y aller, quoi. J'ai très mal vécu étant ado de ne pas y aller parce que j'ai eu peur de la veste, j'ai eu peur du râteau, j'ai eu peur de me retrouver le bec dans l'eau. C'est pire en fait quand on n'a même pas l'échec parce qu'on veut dire qu'on n'a même pas osé. J'ai tellement souffert étant jeune adolescent de manquer de courage que je crois que je me suis bien rattrapé depuis, ça m'a servi de leçon.
Cette chanson-là, elle nous dit qu'il faut oser.
Alors, elle nous dit pas qu'il faut y aller, mais elle nous dit qu'il faut accueillir le trouble, oser être fasciné. Et cette réinterprétation par Bachung, elle me paraît s'inscrire à la fois dans la fidélité à l'original et en même temps dans une variation à la marge qui en fait toute la beauté. Et puis je trouve que quelque part, Bachung, la manière dont il le dit, me parle plus. J'ai plus l'impression de comprendre.
Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole, n'a plus besoin du protocole et tous les longs discours futiles. Dernirait quelque peu le style de nos retrouvailles.
pas gâché l'instant de nos retrouvailles, alors qu'il lui a jamais parlé et qu'elle lui a pas parlé non plus. C'est une manière de dire aussi qu'on peut avoir un sentiment étrange de familiarité avec quelqu'un qu'on connaît pas. Quelque chose que je développe beaucoup dans mon dernier livre sur la rencontre, où j'explique que la vraie rencontre, c'est à la fois une rencontre de ce qu'on n'attendait pas et de ce qu'on attendait aussi. Et ce que ça nous dit, en fait, quand le nouveau nous semble familier, c'est quelque chose de très profond, c'est-à-dire qu'on est fait pour ça, en fait. Et surtout pas pour rester dans son identité, dans sa fierté identitaire. On est fait pour s'exprimer, s'extérioriser et aller à la rencontre de l'inconnu. Je lui dirai.
Les mots bleus version Bachung, c'était donc Frédéric Pommier, le choix du philosophe et romancier Charles Pépin.
Qui reprend ce soir, c'est Lundi Philo au cinéma MK de Odéon à Paris. C'est à 18h34 à son dernier livre, La Rencontre. Il est publié chez Allard Édition.
Et puis on peut réécouter ses émissions de cet été sur France Inter, c'est sur franceinter.fr. À demain Frédéric.
À demain.
Le feuilleton, la crise sanitaire a mis un peu plus en évidence les manques du système de soins français, les difficultés de l'hôpital et les déserts médicaux. C'est ce que nous allons explorer toute cette semaine dans le 13-14. Jeudi, nous serons en direct de l'hôpital de Saint-Dié dans les Vosges. Comment un petit établissement se sort-il de la double vague de Covid dans une région touchée par le manque de soignants? Et dans le feuilleton, avec Sarah Guibaudot, eh bien, nous allons dans le Maine-et-Loire, à Cholet. Le groupe mutualiste Vive a ouvert un service médical de proximité grâce à la mobilisation de médecins retraités. Il est le bienvenu, ce service. Premier épisode dans la salle d'attente.
Cabinet médical, bonjour. Non, j'aurai pas du tout de place pour mercredi. J'aurai de la place que vendredi.
Bonjour. Je fais un reportage sur le centre et plus généralement sur le manque de médecins.
Voilà. Est-ce que vous accepteriez de m'en parler un peu ?
Ah oui, bien sûr. Je viens avec vous en salle d'attente alors.
Donc on est arrivé dans la région au mois de février. On a longtemps cherché un médecin traitant et il n'y en avait pas. On se faisait rejeter de tous les cabinets médicaux qui ne prennent pas de nouveaux patients, que ce soit sur Cholet ou même... on est allé jusque dans un rayon de 30-40 km. Moi, j'ai même un moment envoyé un message à la CPAM.
À l'assurance maladie,
oui. À l'assurance maladie, hein, pour demander comment on pouvait faire. On était une nouvelle famille avec des enfants. Et en ayant des problèmes de santé, par qui on devait être suivi, finalement. En fait, c'était un cabinet médical, moi, qui m'a parlé de ce service de proximité. Mais bon, on voit bien ici, depuis quelques temps, c'est pas de leur faute, hein, ça n'a rien à voir avec eux, mais que les rendez-vous sont complets longtemps à l'avance. Et on avait une urgence la dernière fois et on n'a pas pu nous prendre, donc il a fallu qu'on ait recours à une consultation vidéo. C'était la seule solution qu'on avait pour une petite fille, avec un médecin de Strasbourg qui nous parlait en vidéo. De toute manière, tout le corps médical est concerné parce qu'on ne trouve pas de dentiste non plus, il n'y a pas d'ophtalmo, il n'y a pas de... Voilà, on voit bien qu'on est dans un gros désert médical. Là, on envisage, nous, d'aller se faire soigner sur Nantes. Ou Angers. Donc c'est quand même très compliqué parce que s'il faut faire 120 km, 130 km pour aller se faire soigner des dents ou des choses comme ça, c'est...
Ça fait 7,50 € s'il vous plaît. Cabinet médical, bonjour, je vous laisse passer un petit instant, ne quittez pas. Bonne journée, au revoir.
Bonjour, enchantée, Sarah Guibaudot de France Inter.
France Inter, bon.
François Niveau, médecin retraité, médecin coordonnateur donc du service médical de proximité Madeleine Bray, et en retraite depuis 2018, mais ayant repris du service donc depuis on va dire chapeauter le recrutement des médecins. On est 12 médecins retraités qui travaillons donc sur une clientèle partagée à temps partiel.
Vous travaillez combien d'heures par semaine ou combien de demi-journées? Comment ça se passe?
Alors on travaille en moyenne entre 2 et 6 journées par mois, réparties comme on l'entend, en fonction d'un emploi du temps qu'on met au point une fois par trimestre.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez rendez-vous?
Oui, 1h45.
Oui, je vous laisse passer un temps en salle d'attente.
Merci.
Qu'est-ce qui vous a amené dans ce centre médical?
Alors, pour ma part, j'ai mon médecin traitant qui est parti à la retraite il y a 2 ans. Et du coup, à chaque fois que j'appelais donc une liste de médecins, donc 3-4 pages quand même, je ne trouvais aucun médecin qui reprenait de nouveaux patients. Quand on est malade, patienter 3-4 jours pour avoir un rendez-vous, c'est un peu l'agonie, quoi.
Là, par exemple, on peut parler de ce que vous avez. Vous avez donc une sciatique. Oui. Ça fait très très mal.
Ah oui. Sans médecin, ça aurait été très très compliqué. Bah, j'aurais été aux urgences. Ils sont déjà surchargés, donc c'est pas le bon truc à faire, mais parfois on n'a pas le choix.
Ici, vous êtes donc reçu par des médecins retraités, oui, ou par de tout jeunes médecins. Vous, ça vous convient?
Oui, non, il n'y a pas de souci. Je trouve ça très très bien, et ça serait bien qu'ils fassent la même chose pour les dentistes. Je me permets de le dire aussi, parce que j'ai pas de dentiste, ça fait 2 ans que j'ai pas été chez le dentiste. Donc pareil, qui est parti à la retraite et pas de nouveau dentiste.
Le feuilleton Sarah Guibaudot, réalisation Lucille Lemarchand, demain rencontre avec une médecin à la retraite qui a repris du service. Elle n'avait trouvé personne pour lui succéder dans son cabinet libéral.
France Inter, le 13-14.
Jean Lebrun, le projet de loi instaurant un pass vaccinal est examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, puis mercredi au Sénat. Comme un symbole, le président de l'Assemblée nationale est placé à l'isolement, Richard Ferrand, positif au Covid. Dans le vif aujourd'hui, réflexion Jean, sur ce Parlement assez démuni en ces temps de crise. Depuis le début de la crise sanitaire, il a examiné une dizaine de projets de loi en lien avec l'épidémie.
La particularité du moment extrême que nous vivons, c'est pas qu'il est extrême, c'est qu'il est long. J'emprunterai beaucoup un numéro de la revue Études, novembre, et un article du juriste Jean-Félix de Bujadoux, qui n'hésite pas à comparer le moment que nous vivons à l'interminable Grande Guerre qui, pendant 4 ans, a fait d'un régime d'exception la règle. En 14, le Parlement s'était replié à Bordeaux. Il n'existait plus qu'en distanciel. Il avait confié le pilotage de la guerre à l'état-major, mais il avait abandonné aussi le contrôle du pilotage. Il avait mis les mois avant de retrouver le Palais Bourbon et de se ressaisir. Et à l'époque, le président de la République lui-même, c'était Poincaré, avait souffert aussi de ne plus être dans le cercle de la décision.
Bon, mais nous ne sommes plus sous la Troisième, mais sous la Cinquième République.
Oui, et le président aujourd'hui, vous avez remarqué, c'est le centre de la décision. Mais il ne faut pas confondre l'esprit de la Constitution de 58 avec l'application qu'en fait présentement le locataire de l'Élysée. Un commentateur du Sénat le compare à un derviche tourneur qui pivote à la vitesse d'une toupie, enregistrant toutes les données dont il résulte sa solution. Un Conseil de défense et de sécurité nationale nommé à sa main l'assiste, qui se substitue peu à peu au Conseil des ministres, qui perd en importance comme en solennité. Le Premier ministre en vient à présenter aux parlementaires les décisions du président comme si c'était les siennes. Or, dans le texte de la Constitution, c'est lui qui est responsable politiquement face à eux et non le président. Un seul homme pour faire face à tant de variants. Alors certains en appellent à une Sixième République, mais ni la Constitution de la Cinquième, ni ses récentes révisions successives n'affirment une telle concentration des pouvoirs. Les pères du texte de 58 souhaitaient substituer au parlementarisme débridé un parlementarisme non pas bridé, mais rationalisé. Et la révision de 2008 visait à renforcer le rôle de l'opposition et du contrôle par les assemblées. Il y a peu, Édouard Philippe disait, la réalité de l'évolution des institutions est que le Parlement, révision après révision, grignote un peu d'autonomie.
Dans les textes en tout cas, mais qu'en est-il dans la réalité?
Oui, en 73, un talentueux président de l'Assemblée, Edgar Faure, observait que si l'effacement de l'Assemblée se prolongeait, c'était parce que les parlementaires l'acceptaient ainsi. On sortait alors d'une période de chambre monocolore, 68-73, élue dans la panique d'après-mai. Les chambres dites introuvables constituent un danger. Celle d'aujourd'hui compte en outre d'innombrables débutants qui n'ont pas su acquérir une véritable culture politique. En résulte, comme on disait Edgar Faure, litanie, liturgie et léthargie. Et il continuait, les députés en viennent à se demander ce qu'ils font là. Aux heures creuses, ils vivent, je cite, « dans une société de somnambules qui se passe la parole pour s'empêcher de se réveiller ».
Bon, une chambre introuvable d'un côté, la pandémie de l'autre, l'exécutif avait beau jeu.
Alors, il dit avoir préservé le débat, c'est à voir. En tout cas, il s'est fait souvent déléguer le pouvoir de légiférer par ordonnance. Depuis le début de la pandémie, nous en sommes à une dizaine de projets de loi et à une centaine d'ordonnances. Mais on descendait la pente des ordonnances depuis longtemps. 2000, un texte de loi sur 4 était issu d'une ordonnance. 2019, avant la pandémie, 1 sur 2.
Alors, reste au Parlement la fonction de contrôle.
Oui, encore faut-il que la majorité des députés puisse tenir cette partition. Exemple, en mars 2020, une modeste vaste mission d'information de l'Assemblée avait été instituée pour établir le suivi de la pandémie, il y a un an, la majorité n'a eu de cesse que de la dissoudre. Mais les chambres introuvables ne durent qu'un temps. Celle qui sera élue en juin 2022 sera certainement assez composite. Et comme disait Edgar Faure, quand le dormeur s'éveillera, on s'étonnera qu'il ait de nouveau de l'appétit.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Un homo sapiens au cœur de l'émission
aujourd'hui. Ben voilà, on va commencer l'année en parlant de nous, tout simplement.
À tout à l'heure pour la Terre au carré, tout de suite même.